Carrefour.
Quand vous me dites, les JO de Paris 2024, ça va être énorme! Et pour une fois, toute la France sera derrière Paris! Eh bien, je vous réponds que pour célébrer les Jeux Olympiques de Paris 2024, il y a une collection exclusive chez Carrefour. Comme par exemple, le ballon de foot Paris 2024 à 9,99€ seulement. Alors? Ah ben ça, c'est énorme! Et c'est dans vos hypermarchés Carrefour.
Carrefour, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Jusqu'à épuisement des stocks, produits officiels sous licence, détails sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
On commence avec Apolline Matin. Harcèlement scolaire, comment mieux prévenir? Nouveau drame il y a quelques jours dans le Pas-de-Calais. Une adolescente de 13 ans, Lindsay, s'est donnée la mort, victime d'insultes à répétition dans son collège, mais aussi sur les réseaux sociaux. Elle avait essayé d'alerter ses amis, mais celles-ci, ses amis, donc, se sentaient démunies. Elles ont témoigné ce matin sur RMC.
C'était une de mes amies et maintenant j'arrive pas à réaliser qu'elle est plus là. Quand elle se prenait une remarque au collège, elle me disait c'est pas grave, je m'en fous. Alors que au fond d'elle, ça l'a touchée. Et elle m'a envoyé beaucoup de messages comme quoi elle allait pas bien, qu'elle voulait plus vraiment être là.
Elle essayait de faire comprendre en passant des petits mots, mais on comprenait pas. Pareil, j'ai été victime et ma mère, elle a dû intervenir.
Il faudrait en parler plus souvent, plus librement, plus ouvertement.
Emmanuel, un drame de plus. Un drame de plus.
On a l'impression que c'est tous les jours, en fait. Hein.
Heureusement, non, mais c'est vrai que ça se...
Il y a ceux dont on parle pas. Ouais, mais parce que là, on en parle parce que la personne, malheureusement, l'adolescente est suicidée.
Ouais.
Moi, j'ai eu un cas dans l'école de mes enfants, enfin, un enfant qui est arrivé dans l'école de mes enfants parce qu'il était harcelé dans son autre école. Et en fait, il y a un problème aussi, et ça a été très bien dit ce matin chez Apolline, c'est que il y a les enfants qui s'en sortent, qui ne vont pas se suicider, mais il y a un trauma derrière qu'on ne gère absolument pas, qu'on ne traite absolument pas. C'est des enfants qui peuvent être fragilisés sur leur confiance en eux pendant mais des années et des années, qui vont avoir du mal à se reconstruire. Et là, il n'y a pas grand-chose en fait pour ces enfants-là. Et ça nous alerte une fois de plus, mais c'est dramatique, on ne sait plus quoi faire.
Pierre-Edouard. Bah, c'est vrai que, enfin, on est tous un peu, démontés, enfin, on se sent démunis et désemparés devant un drame pareil. Enfin, le suicide est d'abord toujours un drame. Mais en plus, quand on parle d'une petite fille de 13 ans, enfin, une jeune fille de 13 ans, on meurt pas à 13 ans, c'est pas possible.
Ah, si.
Après, il y a deux choses. D'abord, il y a quand même un vrai sujet, y compris aussi au niveau de l'éducation nationale, pour détecter, pour traiter ça. Alors j'ai bien l'éducation dans son ensemble, c'est-à-dire pas forcément l'enseignant, etc., mais il y a un vrai sujet d'accompagnement. Je tiens à dire que si à côté des enseignants, il y avait à nouveau dans les écoles suffisamment et d'infirmières et de travailleurs sociaux, ça permettrait peut-être aussi d'éviter un certain nombre de cas, parce que je rappelle que...
Pour ceux qui n'ont pas suivi le cas de l'INSEE, dès le mois de septembre, elle dit avoir été harcelée par un groupe de jeunes filles. Il y avait eu ses parents, elle s'en est ouverte à ses parents, qui ont fait un signalement, qui l'ont signalé à l'établissement. L'établissement qui dit avoir pris des mesures à ce moment-là pour essayer de régler le problème. Ça finit quand même par une bagarre dans l'une des rues où elle habitait, dans le Pas-de-Calais, entre elle et ses jeunes filles. L'établissement, encore une fois, a été averti. Il y a eu exclusion une journée de l'INSEE et de ses jeunes filles pour marquer le coup. Et puis finalement, bah, apparemment, ça a continué. Ça a malgré tout continué. Ce que je veux dire, c'est qu'on est au mois de mai. L'INSEE, là, elle s'est donné la mort il y a quelques jours. Mais septembre à mai, il y a eu des signalements. L'éducation a dit avoir joué son rôle, mais ça ne suffit pas.
Tu vois, finalement, à un moment, il y a eu une sanction qui est tombée parce qu'il y a eu une bagarre entre les harceleuses et la harcelée. Ouais. Et finalement, la sanction est tombée sur le seul fait qu'il y a eu une bagarre et tous se sont pris une journée d'exclusion.
Ouais.
Il y a aussi un vrai problème, c'est que entre le harcelé et le harceleur, il y a d'abord, souvent, c'est le harcelé qu'on déplace. Donc c'est lui comment dit l'église qui
dit enfin le ministre de l'éducation nationale Papendia récemment a dit que maintenant ça
évidemment que c'est pas à la victime de devoir faire des efforts pour régler le problème des agresseurs puisque ce sont des agresseurs. Deuxièmement, effectivement, la sanction tombe sur le seul fait de la bagarre, mais ça veut dire qu'on n'a pas analysé les causes.
Non, mais surtout j'ai le sentiment qu'il y a pas, alors on peut pas évidemment, il faut peser chaque cas de harcèlement scolaire, mais c'est un peu il faut comparer ce qui est comparable, mais comme les violences faites aux femmes, moi j'ai le sentiment parfois que on voit une femme qui se dit violentée par son mari ou par son compagnon. Elle fait un signalement,
Deux signalements.
Trois signalements. Il y a parfois des mesures qui sont
d'éloignement.
Des mesures qui sont mises en place, etc. Mais malgré
pas
tout.
Pas toujours.
Malgré tout, cette femme, elle finit au bout de quelques mois,
parce qu'on manque de moyens.
On finit par apprendre, ben voilà, une femme s'est fait tuer par son
mais
mari.
Mais pourquoi?
C'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a eu des signalements. On savait que l'INSEE, sa famille savait qu'elle était harcelée et que l'éducation nationale le savait. Et on a essayé de mettre en place, mais malgré tout, c'est fini.
Parce qu'il y a un problème de formation des forces de l'ordre, il y a un problème de formation de la justice, il n'y a pas assez de budget, c'est pas nouveau, il n'y a pas de spécialisation dans les commissariats par rapport à ces sujets-là, et on ne pense jamais que c'est aussi grave, et puis voilà, ouais. Et on a des femmes qui meurent sous les coups des maris, puis on a des adolescentes qui se suicident.
Et tout ça aboutit à des champs de ruines parce que on a eu un suicide, il n'y a pas de drame plus absolu que la mort, je pense, d'une petite fille de 13 ans. Mais en plus, y compris parce qu'on n'a pas fait le travail nécessaire, de l'autre côté, les quatre jeunes filles en question, leur vie, elle est laminée également.
Ah oui. Elles ont été mises en
examen. Ce que je veux dire, c'est qu'on a tué une vie et en plus, il y en a quatre autres qui sont irrémédiablement gâchées. Donc tout est dramatique dans cette affaire. Je ne fais pas un signe égal entre les deux, qu'on s'entende bien, mais tout est dramatique dans cette affaire.
Les institutions ont failli. Les institutions ont failli.
Et notamment les travailleurs sociaux et les infirmières dans les établissements.
Le plus grave, c'est la... Je vous écoute. Le plus grave, c'est la prudence, la mesure dont on fait preuve. Il faut parler de tout ça. Pas de vague. L'école de la République est devenue le point noir de la France. C'est un endroit de honte. C'est un endroit de mort. C'est un endroit de destruction. Voilà, de déstructuration de la société. L'éducation nationale, l'école de la République, qui était le fleuron de ce pays, est devenue aujourd'hui un cauchemar. Ça va de Samuel Paty à cette petite gamine qui meurt à 13 ans. Démission totale, poussière sous le tapis, pas de vague, les autorités qui ne sont pas capables, les rectorats qui ne sont pas capables, un ministre de l'éducation nationale inexistant. Et chaque fois qu'il y en a un qui ouvre sa gueule, on lui dit « Ah, attention, t'es en train de dénigrer, de jeter l'anathème sur l'institution. » Et des gamins meurent dans des conditions absolument inacceptables. Et je parle pas du reste, et je parle pas de la discipline, je parle pas des agressions aux profs, je parle pas du silence total, l'omerta qu'il y a sur ce qu'est devenu l'école de la République française. Donc, on peut continuer à constater larmoyant, pleurnichant, voilà, oui, il faudrait... C'est vrai que tout ce que vous avez dit, mais on n'en est plus là. C'est beaucoup plus grave que ça. Donc c'est un dossier qui remonte au président de la République, aussi grave que les retraites, aussi grave que la sécurité, aussi grave que le chômage. Qu'est-ce que devient, et que l'hôpital, qu'est-ce que devient l'école de la République? Est-ce que c'est devenu une jungle où les petits vont se faire bouffer par les grands, où les tigres vont bouffer les agneaux, et où le savoir et l'enseignement vont devenir un détail sans importance, parce que l'important, c'est qu'on fasse pas de vagues, et qu'on protège les petits caciques de l'éducation nationale, qui sont de véritables salauds, qui savent tout. C'est à eux que j'en veux. J'en veux pas aux gens qui dénoncent le mal, j'en veux à ceux qui savent et qui ne font rien, et qui ne disent rien, et qui sont très nombreux et très haut placés. Et on a les noms, et on sait qui c'est. Un jour, ça sortira, mais ça sortira dans des conditions beaucoup plus conflictuelles. Donc, une fois de plus, il faut prendre des mesures courageuses, douloureuses peut-être, politiques maintenant, et que les responsables politiques prennent la responsabilité. Parce que si on continue à laisser les lâches, les pleutres et les démissionnaires gérer l'école, on ira de plus en plus de tragédies et de catastrophes.
Ça, c'est ce que j'appelle un coup de gueule salutaire.
Voilà.
Merci, Perico. Les GG, faut-il... Les applaudissements rugis, je sais pas si tu l'as entendu. Les GG, faut-il la parfaite parité dans les tâches du quotidien? D'après une étude, la part des femmes qui bricolent à la maison, Emmanuel, a doublé en 20 ans, Pierre-Edouard. Mais les hommes restent quand même majoritaires à s'occuper du barbecue, Perico, et ne changent pas forcément les couches du bébé, Paul. Un partage des tâches difficile pour certains hommes.
Hein, Rémi?
Comme Mehdi Ghezza, le chef d'entreprise des GG.
La dernière fois que t'as rempli le lave-vaisselle, Mehdi?
Non, mais moi je fais travailler la... Je fais travailler beaucoup de personnes.
Mais le micro,
devant le micro. Ouais. Il est timide, la Mehdi.
Mais ouais, oui, il a une femme de ménage pour faire court.
Je fais pas. Non,
tu sais changer une couche, Mehdi, ou pas?
Oui. Oui.
Ah, voilà. Je suis déjà
faire tourner la machine à laver.
Non, mais non, par rapport à l'ancienne génération,
faire tourner la machine à laver.
Non.
Le lave-vaisselle.
Ouais. Ouais, quand même, hein. Il y a des choses.
Non, mais si l'évier se bouge, tu sais.
Je suis pas souvent à la maison. C'est pour ma défense. Honnêtement, je suis pas souvent à la maison.
Perico, à la maison, tu fais la cuisine au moins?
Non.
Tout sauf ça.
Est-ce que je peux répondre? À la maison, je fais tout. Et j'ai une épouse qui sait tout faire aussi. Ouais. À la maison, je fais tout. Et j'ai appris à faire ce qu'un homme ne faisait pas. Je suis un grillon du foyer. Là, je lance une candidature. Je suis très bien dans ma vie matrimoniale, mais je peux prendre aujourd'hui la gestion d'une maison. Je sais m'occuper des enfants, les couffes, l'école. Je connais tous les problèmes de domesticité et c'est formidable. Et je peux vous dire que la véritable conquête féminine, c'est de faire que la première égalité des hommes et des femmes, c'est la tâche domestique à la maison. Ça, c'est formidable.
Y compris le bricolage?
Alors, ma femme bricole très bien, et dès que c'est compliqué, parce que je suis un peu neuneux, donc dès que c'est un peu technique, c'est elle qui fait, et moi je fais des tâches domestiques un petit peu en bas. Je plaisante à peine, voilà, et la sérénité de mon couple, elle vient de là. Voilà, j'en sais plus qu'elle sur la lingerie, sur la layette, sur l'entretien, j'en sais plus que ma femme. C'est moi le chef à la maison.
Voilà le secret de la table. Voilà.
Ben, tu fais partie des 15% d'hommes qui se bougent les fesses à la maison. Ils sont pas si nombreux que ça. Moi, je tiens à dire que je sais me servir d'un barbecue et l'allumer, merci. mais la réalité, c'est que c'est les femmes, malgré tout, qui gèrent et les tâches ménagères et la fameuse charge mentale, qui est quand même la charge mentale, c'est quoi? C'est ton cerveau qui est en permanence en fonctionnement parce que il y a le dentiste du petit, il y a le rendez-vous avec les parents, la réunion parents prof, il y a plus de lait, il y a plus d'eau, où est passé le chat, voilà, c'est toute cette charge mentale là, et ça les hommes ils sont pas encore très nombreux à l'avoir
ils ont peut-être
récupéré,
à aussi.
Hein.
Ils ont peut-être
et alors il y a une, en fait il y a une appli, pourquoi ils en parlaient, c'était les GG, hein, ouais. Parce qu'il y a une appli qui va sortir pour les couples où chacun va pouvoir mettre un petit peu, bah, moi j'ai fait ça cette semaine, moi j'ai fait ça, et là tous les hommes qui sont persuadés d'être super performants à la maison vont se rendre compte que bah, finalement madame ils ont peut-être été performants, je dis pas qu'ils font rien, loin de là, mais que elle en a fait trois fois plus, ouais. Et ça va permettre de rétablir un petit peu les choses.
On est très bon en sortie de poubelle. Non mais c'est vrai.
Le dimanche.
Alors moi je suis
non mais je rigole pas,
moi,
parce que tu sais,
en sortie de poubelle aussi,
tu sais, non mais je te jure que c'est vrai, j'avais vu, tu sais qu'il y a des études qui ont été faites plusieurs, et c'est vrai, ce que le constat,
c'est l'extérieur,
le constat que tu établis, il est incroyable, il est affligeant pour nous les hommes, mais c'est la vérité, je ne sais pas pourquoi, mais on est en sortie de poubelle, on se démarque, mais bien
tu nettoies les toilettes, toi?
Ouais.
Tu les nettoies les toilettes, oui. En vidant l'eau, en
oui,
passant la broche,
absolument.
Machin, tu nettoies,
absolument.
La gazinière,
Non mais je suis un contre-exemple.
Alors, passage.
Mais, non mais ça, objectivement, Manuel, je suis sincère, je suis un contre-exemple aussi, comme Perico. Mais je sais que dans l'immense majorité des cas, et je pourrais certainement en faire beaucoup plus, mais que dans l'immense majorité des cas, c'est vous les femmes qui avez la charge mentale, ça.
Ah bah,
c'est incontestable. Pierre-Edouard.
C'est toujours tout ce qui est extérieur. Je suis sûr qu'effectivement, barbecue, sortie de poubelle et tonte de pelouse, on doit être très fort.
Ouais.
Je pense qu'on est dans les vieux schémas, c'est-à-dire la femme gère l'intérieur et l'homme gère l'extérieur.
Ouais, bah, les hommes font ça en plus.
Non, mais elle reste dans la grotte, elle aménage et puis nous,
Je suis pas. Alors là, je suis sûr, je le prie, vu qu'on l'a évoqué tout à l'heure, je suis pas pour dire comme c'était comme ça avant, il faut que ça continue, hein, qu'on soit bien d'accord, mais il y a de l'anthropologie qui vient effectivement de là. Et après, il faut la faire changer. Le problème des mentalités, c'est que ça doit changer. Mais ça reste effectivement très ancré. Après, j'ai tendance à penser quand même que ça bouge. Enfin, moi, je ne pense pas qu'il y ait pas fait, on serait interchangeable, mais je pense qu'on serait parti assez bien les choses. Après, j'ai à dire parce que je bricole et elle bricole aussi. Après, on fait pas les mêmes choses. La cuisine aussi, le ménage. Je réfléchis. Elle sait plus s'occuper de ma fille que moi. Ça, c'est clair. Non, mais elle a beaucoup plus géré notre fille.
T'as vu ce qui arrive aux États-Unis? Le mouvement Tradi Wives, c'est des femmes qui ont 20-25 ans
qui veulent
retrouver le côté des femmes des années 50 qui étaient à la maison, s'occupaient de tout ce qui était domestique, ne travaillaient surtout pas. Et elles idéalisent complètement le truc. Et c'est un truc de mouvement puissant. Oui, mais idéalisant complètement les choses, en s'habillant même comme on s'habillait à cette époque-là.
Ah c'est un autre
débat. Et en fait, ce qu'elles ne savent pas, c'est que toutes les études ont montré que la femme qui a choisi, je veux dire, on ne leur impose pas forcément, qui a choisi d'être à domicile, d'élever ses enfants, je ne juge pas du tout, à 50 ans, elle s'effondre quasiment toute parce que les enfants s'en vont et qu'elle se retrouve
le vide,
à plus rien faire. Ouais. Et si je travaillais, ouais, mais t'as fait quoi? Bah, j'ai fait un milliard de métiers comme mère de famille, c'est sûr. Mais je n'ai rien à montrer. Mais je n'ai pas de CV.
Invendable, insolvable dans l'économie.
Et on s'effondre.
Et
pour peu que Pépère, il soit parti avec
sa jeune secrétaire de 25 ans.
Mais moi, je vous dis, il est temps que la charge mentale change de camp.
Mais oui, Perico.
Apolline Matin, l'apprentissage de l'orthographe passe-t-il par le numérique? Depuis des années, le niveau en France orthographe ne cesse de se dégrader, mais certains universitaires ne s'en inquiètent pas et prônent même le correcteur automatique pour aider les élèves à faire des progrès. Explication ce matin de Nicolas Poincaré.
Et oui, puisqu'on écrit de moins en moins au stylo, il y a de moins en moins de manuscrits, de plus en plus de tapuscrits avec des logiciels qui nous corrigent dès l'école, selon ces linguistes. Il faudrait enseigner aux enfants à bien utiliser ces outils plutôt que de leur infliger des dictées. Une idée qui va faire hurler les défenseurs de l'orthographe et de la dictée, au premier rang desquels Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation, qui vient justement de donner instruction aux maîtres d'école pour que l'on fasse tous les jours des dictées.
Bah voilà, Perico, le correcteur automatique, c'est formidable.
Il était temps que... En plus, c'est quelqu'un...
Non, non, mais je dis le correcteur automatique, c'est formidable.
Ah non, mais c'est une honte.
Non, parce que
c'est un instrument de barbarie et ça participe à la régression sociale dont on a parlé tout à l'heure. Elle commence d'abord au moment où l'enseignement ne se transmet pas, où le savoir ne se transmet pas. Or, un correcteur automatique, ça veut dire qu'on ne transmet plus le savoir. on remplace de la technologie, on remplace du savoir concret par de la technologie ou une mesure quelque part qui facilite les choses. L'école, c'est l'effort de l'apprentissage. C'est une démarche. Là, on dit, on va te remplacer, tu n'auras plus à le faire.
Non,
mais à un moment donné, on remplacera. À un moment donné, Pierre-Yves, on remplacera l'élève.
Pierre-Edouard. Pierre-Yves, en plus, les correcteurs orthographiques sont relativement bons en orthographe pure. Ils sont souvent très mauvais en grammaire.
Grammaire, c'est une horreur.
Si vous dites, je sais pas, moi, un tabouret et un vélo vert, il comprendra jamais qu'il faut mettre qu'on peut mettre un S à vert, ça lui ira jamais. Oui. Il veut mettre de l'indicatif et du conditionnel, donc il est très mauvais, effectivement, en grammaire. Et après, c'est un travail quotidien. Moi, ma fille a eu sa première tablette et elle a deux numéros, sa mère et moi, elle commence à faire des textos. Quand elle fait des fautes, alors ce que je fais, je réponds en disant, qu'est-ce que c'est que ce machin? Je lui réponds en reprenant les mots.
Oui.
Je fais l'effort de répondre en reprenant les mots qu'elle a mal orthographiés pour les orthographier correctement.
Sauf que toi, t'as qu'une fille. Moi, j'ai quatre enfants et j'arrête pas de le faire aussi. S'ils avaient eu des dictées tous les jours à l'école, on n'en serait peut-être pas là. Surtout que je suis un ayatollah de l'orthographe. Je supporte pas ça.
La dictée et la lecture. Ils sont de très bons formateurs sur l'orthographe et sur la grammaire.